réveil, merci d'être avec nous, on espère que vous allez bien. Il est 7h. Alors les informations arrivent, puis le retour de la musique juste après avec Laurine et un duo qu'on adore tous, Vita et Julia Doré.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Nous sommes le samedi 3 janvier 2026. On débute avec les informations. Le journal qui vous est présenté ce matin par Florian Barbet. Bonjour.
Bonjour. Deux jours après l'incendie qui a ravagé le bar du Constellation, la nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana, le drame soulève de nombreuses questions. Quelques 30 gendarmes et 60 inspecteurs travaillent d'ailleurs toujours sans relâche sur l'enquête qui leur a été confiée par le ministère public. À l'heure actuelle, et sur la base des auditions de témoins, des analyses de vidéos et de tous les éléments observés sur place, des éléments de réponse se concrétisent, notamment sur la cause principale à l'origine de l'incendie. Béatrice Pillou, procureure générale, l'a fait savoir hier en fin de journée lors d'une conférence de presse.
Il y a une hypothèse là qui maintenant est sérieusement envisagée. Ce sont ces feux de Bengale ou ces bougies incandescentes qui étaient posées sur des bouteilles de champagne trop proches du plafond. Le plafond a pris feu, ce qui a créé ensuite un embrasement général.
La suite de l'enquête, elle va vers quoi ?
On n'en sait rien actuellement vers quoi tend la suite de l'enquête. En tous les cas, il n'y a strictement aucune piste qui est laissée à l'abandon. Toutes les pistes sont explorées. Et grâce à l'intervention également à titre d'expert du Forensic Institute de Zurich, on espère arriver à donner des réponses aux familles.
L'enquête, bien évidemment, se poursuit. Elle portera notamment sur les travaux effectués dans le bar, sur les mesures de sécurité et les contrôles de ces mesures. Pour les victimes, l'identification est toujours en cours et dans tous les cas, les conclusions sont et seront de toute façon réservées aux familles. C'est ce que n'a pas manqué de préciser Frédéric Gisler. Le commandant de la police valaisanne a également fait savoir que 113 des 119 blessés ont pu être formellement identifiés. 71 sont de nationalité suisse, 14 de France, 11 d'Italie et plusieurs autres en provenance de différents pays européens. Toutes les familles sont accompagnées, souligne Frédéric Gisler.
Nous avons un centre d'accueil qui permet d'accueillir ces familles, de leur prodiguer les soins, en tout cas le soutien dont elles ont besoin. Nous les tenons régulièrement informés de l'évolution de la situation avant même d'en informer la presse. Et nous avons, et c'est ce que j'ai ordonné à la police cantonale, c'est-à-dire de mettre sur pied un soutien personnalisé en permanence, jour et nuit, pour chaque famille présente sur site, jusqu'au moment où on aura pu remettre le corps de leurs proches à ces personnes. C'est le respect que nous voulons apporter à ces défunts et le soutien à ces familles.
Rôle de protection également.
C'est également une question de protection puisque nous devons de protéger ces familles, notamment en raison de l'influence et surtout de la pression médiatique actuelle.
Côté soins, la quasi-totalité des patients est entrée dans des accompagnements prévus à plus long terme, notamment avec des transferts dans des établissements spécialisés. Au CHUV, l'unité spécialisée dans les prises en charge pour brûlures graves soigne une vingtaine d'entre eux, contre 6 habituellement. Le centre hospitalier universitaire vaudois a fait le point hier à Lausanne sur leur état de santé. L'établissement est l'un des deux seuls centres en Suisse spécialisés dans le traitement des grands brûlés. Il a accueilli dès les premières heures 22 personnes, 14 adultes et 8 mineurs, des patients parfois très jeunes puisque leur âge se situe entre 15 et 25 ans. La majorité de ces personnes souffrent de brûlures sur 15 à 60% du corps. Le pronostic vital restera engagé durant toute la durée du traitement et le rétablissement s'annonce long. Le CHUV précise pouvoir pour l'instant faire face à la situation, mais il faudra trouver des solutions sur le long terme. Matthias Roth-Kleiner est le directeur médical du centre hospitalier universitaire vaudois.
Suite à cette période de vacances, on avait moins de patients hospitalisés parce que les patients ne veulent pas être hospitalisés. Alors tout l'électif qu'on peut éviter ne se fait pas pendant ce temps-là. Alors ça, c'était l'avantage d'avoir des places logistiquement libres. De ce côté-là, c'est tombé dans une période où l'hôpital n'était pas déjà rempli à fond. On a toujours pu assurer les urgences pendant tout ce temps-là. Disons, de ce côté-là, on n'a pas dû vraiment faire des compromis. Mais avec la fin des vacances, il y a l'activité standard qui va augmenter. Ça, c'est quelque chose qui va alourdir un peu la situation la semaine prochaine.
Le CHUV a précisé que plusieurs équipes étrangères, par exemple d'Italie, sont venues sur place pour évaluer les patients en vue d'effectuer un rapatriement dans leur pays. Et cela est d'une grande aide, se réjouissent les responsables de l'hôpital vaudois. C'était un sujet collectif réalisé par nos confrères de Rhône FM. À Aigle, le programme Free Sport Hiver fait son retour pour une sixième saison depuis le 2 novembre et jusqu'au 29 mars. Chaque dimanche soir durant l'hiver, les jeunes de 10 à 25 ans peuvent pratiquer gratuitement des jeux collectifs à la salle de gymnastique du Collège de la Grande Eau. Encadrée et ouverte à tous, sans inscription, cette initiative vise à promouvoir l'activité physique et la convivialité. Le programme est porté par la commune d'Aigle et géré par l'association des jeunesses aiglonnes. Coordinateur sportif au sein de la municipalité Chablaisien, Laurent Niki nous en dit plus sur le profil des participants.
On a un peu de tout, mais on a principalement aussi les footballeurs. C'est un peu la trêve pour eux, la période de novembre à février. C'est où ils jouent le moins, voire plus du tout en extérieur. Et du coup, ils viennent aussi jouer au foot l'hiver. Il y a une équipe qui fait du foot, puis il y a toute une autre équipe de jeunes qui font d'autres sports, parce qu'on a deux salles. Il y a une salle qui est plutôt prévue pour le foot, parce que c'est la plus grande demande. Et puis, il y a l'autre salle où ils font du basket, du badminton, enfin tout type de jeu. Et puis là, on n'a pas forcément que des sportifs.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Notez que la prochaine rencontre sportive aura lieu le 11 janvier prochain. Quelques mots sur l'étranger. Les Iraniens sont à nouveau descendus dans les rues de la capitale, Téhéran, cette fois pour protester contre le régime et la dégradation économique du pays. Des messages d'activistes circulant hier sur les réseaux sociaux faisaient état d'échauffourées dans le quartier de Nazi Abad, au sud-est du centre-ville. Sur les images, on peut voir des personnes scander des slogans hostiles au gouvernement. Le mouvement a commencé dimanche dernier et s'est étendu depuis. Et enfin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier Israël à revenir sur sa décision d'interdire l'accès à la bande de Gaza à de nombreuses organisations humanitaires internationales. Israël a confirmé jeudi interdire l'accès à la bande de Gaza à 37 organisations humanitaires majeures à qui il reproche de ne pas avoir communiqué la liste des noms de ses employés, exigés désormais officiellement à des fins de sécurité. Parmi ces organisations figurent de grands acteurs du secteur dont Médecins Sans Frontières, le Norwegian Refugee Council, CARE, World Vision ou encore Oxfam.